Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La plupart des phares méritent un détour sur la route. Certains valent un voyage. C'est le cas des phares de l'île d'Ouessan, dans le Finistère, que l'on atteint après une traversée parfois mouvementée au départ des ports de Brest et du Conquet.
Le gardien de phare est rond et son phare. Son phare ne trompe.
Il faut leur trouver un usage. Chaque phare peut accueillir, selon sa localisation, une nouvelle activité. Le destin patrimonial des phares dépend aussi de leur positionnement et de l'accessibilité. C'est ça le défi de l'avenir.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous faites peut-être partie des 800 000 curieux qui ont la bonne idée de visiter chaque année l'un des phares français l'été. C'est une bonne période. Pour ça, nous aussi, on va découvrir les plus célèbres de ces phares avec Vincent Guiguenot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, historien, vous travaillez au musée de la marine. On a entendu votre voix là, dans la mise en onde d'André Fazetta et puis il y avait aussi un petit peu celle de Nougaro, si je ne me trompe. On va commencer par ce phare que l'on surnomme le roi des phares et le phare des rois, c'est Cordouan. Pourquoi ce surnom? Ça vient d'où?
Ah, parce que c'est un phare qui a été construit donc sous l'Ancien Régime et sa construction commence à la fin du XVIe siècle. Il y a eu d'importants travaux sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Chaque roi et puis après, bien sûr, la République, l'Empire ont apporté leur pierre à l'édifice.
Est-ce que vous pouvez nous dire où il est et à quoi il ressemble, ce phare de...
Alors, il est à l'embouchure de la Gironde, en mer, sur un plateau rocheux qui découvre à marée basse. Donc, pour le visiter, il faut prendre un bateau au Verdon-sur-Mer ou à Royan, du mois d'avril au mois d'octobre. Et là, on vous dépose sur les bancs de sable qui sont assez mouvants autour de Cordouan. Et puis, il faut aller jusqu'à l'entrée de ce qu'on appelle la couronne, donc une partie basse. Et puis après, vous avez ce phare très, très majestueux qui s'élève et qui vous attend.
Alors, il ressemble à quoi? On lève les yeux et qu'est-ce qu'on découvre?
Alors, on découvre quelque chose de très étonnant. C'est un phare qui a une architecture extrêmement riche. C'est un phare qui a été construit sur plusieurs périodes. On a fait des modélisations avec Dassault Systèmes des différentes phases de la construction de Cordouan. Et c'est un phare extrêmement monumental. C'est vraiment ce qui fait sa particularité. On est au milieu de la mer et tout à coup, on trouve ce monument à la fois de la Renaissance et de périodes plus tardives.
Cordouan, c'est le plus vieux phare en activité au monde. Quand a-t-il brillé pour la première fois?
Alors, l'histoire du phare le plus ancien au monde, je pense que nos amis espagnols diront que c'est le phare de la Corogne, puisqu'ils le font remonter à Rome, enfin, période romaine.
On va être un peu chauvin.
Les Irlandais vont vous dire que c'est Hook Head. Nos amis italiens vont vous dire que c'est la Lanterna de Gênes. Mais il est en activité pratiquement sans discontinuer depuis 4 siècles. Et on trouve des traces de construction antérieure. Donc, on a
1611, c'est l'inauguration, c'est ça? Mais le site était déjà un lieu utilisé pour prévenir les bateaux, c'est ça? Pour sécuriser?
Alors, le site est, on a des traces qui remontent jusqu'au XIe siècle, dans des cartulaires de monastères, où on trouve des moines qui demandent l'autorisation d'aller s'y établir pour prier pour les marins. C'est à peu près l'époque où les Normands se calment. Donc on peut réinvestir un peu le littoral, construire des abbayes, des choses comme ça. Et donc ces moines demandent l'autorisation d'aller prier. C'était ce qui est le plus efficace sans doute à l'époque pour sauver les marins.
Ils ne faisaient pas des grands feux quand même de temps en temps pour alerter?
C'est un peu plus tardif. En fait, ces moines, on pense qu'en fait ils se sont après installés plutôt sur la pointe de Grave ou sur le littoral. Ils ne sont pas restés sur cet îlot qui... Aujourd'hui, donc, complètement recouvert, sauf le phare, évidemment, à marée haute. À l'époque, il y avait encore une petite butte, une petite île qui émergeait. Ce dont on est sûr, c'est qu'au XIVe siècle, les Anglais, le prince noir, lui, fait construire à la fois une chapelle et une tour, alors à la tour de surveillance, et puis on fait des feux également pour les marins.
En 1800, on va essayer d'avancer dans le temps, donc les Anglais décident de la construction, ça prend un peu de temps. Et puis il y a une date importante, c'est 1823, parce qu'il y a un ingénieur qui révolutionne l'éclairage des phares, c'est Augustin Fresnel. Pourquoi il est si important, Augustin Fresnel? Qu'est-ce qu'il a inventé?
Alors, donc Cordouan est allumé en 1611, il va y avoir plusieurs systèmes d'éclairage successifs. On va brûler de l'huile, après on va brûler du charbon, on va mettre le charbon dans une lanterne. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a un certain nombre de savants qui ont commencé à se pencher sur la question des phares, en particulier Borda, qui est un marin et un savant très important, qui va lui proposer un phare tournant. Alors c'est intéressant parce que ça, du coup le feu émet un signal, alors qu'avant on n'a que des feux, comme des feux de charbon qui sont fixes. Et donc on commence à imaginer des appareils assez sophistiqués, qui tournent, qui envoient une lumière, qui changent. Et c'est cette histoire qui commence donc à la fin de l'Ancien Régime, va se prolonger après l'Empire avec donc Fresnel, qui va proposer lui un système radicalement différent. C'est-à-dire qu'avant on mettait des paraboles avec des lampes à huile, et lui va dire non, on va faire un foyer, un feu, et on va l'entourer de lentilles pour créer des faisceaux lumineux, qui est une idée très radicale. Enfin, d'ailleurs, les Anglais, les Écossais qui faisaient plus de phares que nous à l'époque disent c'est un truc de Français, comme la pub Renault, ça marchera jamais.
Et
Fresnel veut montrer que ouais. Ça marche, donc il le montre dans le phare le plus connu en France à l'époque, et ce phare, c'est Cordon.
Alors, on va continuer de raconter l'histoire des phares. Et quand on pense aux phares, évidemment, il y a le mot gardien. Les gardiens de phares, c'était quoi leur vie? Restez avec nous, les curieux de l'été.
Tout l'été, la curiosité sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est la curiosité de l'été, et on se balade sur nos côtes pour découvrir l'histoire de nos phares avec l'ingénieur et historien Vincent Guiguenot. Moi, quand je vois un phare au large comme ça, j'imagine forcément son gardien. Ça n'existe plus ?
Alors, il y en a beaucoup moins, ouais. Effectivement. On a depuis très longtemps maintenant automatisé les phares. Les phares sont capables de s'allumer et de s'éteindre tout seuls. Et ça, depuis la fin du 19e siècle. Mais on a mis du temps avant de trouver la solution pour les plus gros d'entre eux, les plus importants, et puis ceux qui étaient dans des zones très exposées. Et donc l'automatisation, elle se termine en Bretagne, en mer d'Iroise, en 2004, avec Kéréon. Donc on a progressivement fait diminuer le nombre de gardiens.
Il n'y a pas non plus de gardiens à Cordouan ?
Ah si, mais c'est des gardiens, on va dire, nouveau régime. Ouais. Donc ce sont des gardiens qui ne sont plus des gardiens des phares et balises, donc l'administration qui existe toujours, qui est en charge des phares. Et cette administration, d'ailleurs, curieusement, elle a beaucoup plus de marins que de gardiens. Donc il n'y a plus de gardiens phares et balises, mais comme le phare se visite, comme le phare est accessible, puisqu'on peut y accéder à marée basse.
Gardien guide, on va dire.
Voilà, mais ce que faisaient déjà les anciens gardiens, qui accueillaient très bien, il y a 20 000 touristes par an à Cordouan. Donc cette fonction, ils ont aujourd'hui une double fonction de veille sur le monument, parce que un phare, ça peut être vandalisé, hein, si personne ne le surveille. Et puis l'accueil du touriste, puisque c'est un monument qui est très visité, qui aujourd'hui est candidat à un classement au patrimoine mondial, donc c'est très important.
Alors on va se projeter à une époque où il y avait beaucoup de gardiens de phares en France. Ça ressemble à quoi une journée de gardien de phare? Est-ce que c'était un métier dur?
Alors c'est intéressant parce qu'on s'imagine, dans le romantisme lié au métier, que le gardien c'est quelqu'un qui regarde la mer, qui a une relation à l'océan, voilà.
Qui écrit des poèmes.
Voilà, ou qui dessine, ou qui fait surtout ça un peu artiste. En fait c'était un métier relativement technique, on voit très vite, on demande des compétences. Alors c'est un métier avec des machines, on a la machine qui fait tourner le phare, on a quelque chose qui produit de l'énergie, on a un système d'éclairage. Donc c'est un métier, après on va avoir des radios phare. Donc c'est un métier très, très technique. Il y avait une école pour les gardiens à Brest, où on leur apprenait tout ce qu'il fallait savoir faire. Et donc ce savoir en particulier allumer le feu. Il y avait des instructions, ils suivaient des instructions pour mettre en route le phare, faire la veille, hein, parce que les gardiens se relayaient toute la nuit pour veiller le feu.
Et ça pouvait être dangereux, ce feu, justement. Parfois, il sortait de son enclos, il y avait des incendies. Ouais.
Oui, parce que il y avait l'objet culte des gardiens, celui qui a un son d'ailleurs très particulier, qui est le brûleur à pétrole, qui a très beau son. En fait, vous propulsiez du pétrole sous pression vaporisée. Donc, il fallait le chauffer. Il y avait toute une sorte de petit rituel. Donc, si vous vous ratiez, vous faisiez un lance-flamme. Quoi. Et donc, il y avait ce qu'ils appelaient des coups de feu. Alors, c'était rare, mais puis après, il y avait système de sécurité, mais ça pouvait détériorer la lanterne.
Mais vous disiez qu'il y avait des systèmes de veille, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs gardiens qui vivaient dans un même phare.
Alors, ils étaient toujours au moins deux dans les phares en mer. Ouais. Hein, pour, avec un système de veille. Au milieu de la nuit, le gardien changeait, on se relayait. Le service de nuit, comme on l'appelait, on commençait avec l'allumage jusqu'à l'extinction au matin. Et puis dans la journée, il y avait des travaux d'entretien. Mais il y avait toujours en permanence un gardien.
C'était forcément des hommes qui vivaient seuls ou alors ils pouvaient être en famille ?
Alors ça dépend de la localisation. Les phares en mer, hein, il y avait deux gardiens qui se relayaient, qui restaient 15 jours, après il y avait des relèves. Et en revanche, dans les phares à terre, vous aviez le gardien, sa famille. Hein, il y a certains phares où c'était des vrais petits villages, puisque l'administration logeait le gardien et sa famille.
L'âge d'or des gardiens, c'était quand ? La période où il y en a eu le plus en France
C'est-à-dire que la construction des phares, elle est quand même. On parlait de Cordouan qui est de 1600, mais la grosse période de construction, c'est le 19e siècle, hein, jusqu'à la guerre de 14. Quiréon, c'est 1916. Enfin, donc, à cette époque-là, le réseau est à peu près constitué. Donc, c'est à ce moment-là qu'on atteint le pic et on est autour de 600 gardiens.
600 gardiens de phares.
Ce qui n'est pas énorme hein, quand
en
on
France.
Rapporte ça à des métiers ouais. comme cantonnier, dans les chemins de fer, les métiers de l'administration. C'est un petit groupe social.
Cet été, soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
Annonçant la terre, les îles, les brisants, à l'eau de lumière, aux éclats rassurants.
Comme la Bretagne donne à la fois sur la Manche et sur l'océan Atlantique, eh bien il a fallu construire plusieurs phares d'atterrissage pour signaler aux bateaux d'où qu'ils viennent l'approche des côtes bretonnes.
Les haches, îles noires, c'est île et le vent.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La lumière du phare.
Ah oui, quand même. On est passé d'Henri Giroux à Clo-Clo.
C'est bien. Un groupe brestois.
Oui, bah c'est éclectique. On vous emmène en voyage, vous l'avez compris. On visite les phares de notre littoral avec Vincent Guignot, qui est ingénieur, historien, spécialiste de la conservation du patrimoine des phares au musée de la Marine. On va découvrir grâce à vous l'histoire d'une photo. Alors, c'est toujours difficile en radio d'écrire une photo. C'est sans doute la plus célèbre des photos de phare. Elle a été réalisée par Jean Guichard. On voit une vague géante qui engloutit le phare. Et puis, il y a un homme. On imagine que c'est le gardien. Il est tranquillement, il est en train de poser pour la photo. Devant la porte, il est protégé par l'édifice. C'est le sentiment qu'on a en regardant cette photo. Comment elle a été prise ?
Elle a été prise en décembre 1989. Par Jean Guichard, donc qui n'était pas du tout un photographe ni de mer ni de phare. C'est Éric Tabarly qui lui avait signalé que l'automatisation de ces phares avait commencé. Donc si on voulait tirer le portrait du phare avec le gardien, il fallait se dépêcher un peu. Donc Jean Guichard prend un hélicoptère, commence à shooter en Iroise, et puis tout à coup, de loin, il voit le gardien qui a l'air d'être là, donc il s'approche et il fait une série de photos. Parce qu'en fait, le gardien, il rentre à la fin. Il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il est mort, s'il a été emporté par la vague. Non, Théo Malgorn va très bien.
Et il pose pas, c'est pas
non,
prévu.
Non, absolument pas. Non,
il y a le photographe, etc. Quoi.
Ils sont nombreux à avoir tenté un remake de cette photo qui n'a jamais pu se faire parce que c'est. En fait, il a été intrigué par le bruit de l'hélicoptère. Donc, il était sorti pour voir ce qui se passait. Il est ressorti. Alors là, il ne sait pas qu'il y a la vague. Il met le nez. Et hop,
On va remonter aux origines du mot phare, tiens, qu'on emploie depuis tout à l'heure. Il faut voguer en Méditerranée pour découvrir cette origine. Jusqu'où ?
Jusqu'à Alexandrie. Il faut lire Astérix et Cléopâtre. Parce qu'à un moment, Obélix dit on lui explique qu'il va voir un phare, une lumière pour indiquer une ville. Ils sont fous, ces Égyptiens, dit Obélix. Donc, c'est oui, le nom des phares. Est lié à l'île de Pharos, hein, avec ce phare construit par les Ptolémées. C'est intéressant parce que les Anglais disent lighthouse, les Allemands Leuchtturm. Donc il y a moins peut-être cette dimension mythologique hein, dans le mot. C'est un phare qui a été détruit par des tremblements de terre successifs et qui disparaît à la fin du Moyen-Âge. On a parlé de Cordouan tout à l'heure. Il est évident que l'architecte qui construit Cordouan veut faire son phare d'Alexandrie. Mais en fait, il ne sait pas vraiment à quoi ressemble ce phare. On en a des vues assez, disons, excentriques. Ce qui est intéressant, c'est que le phare le plus connu, au fond, on ne sait pas vraiment encore à quoi il ressemble.
A priori, il était très, très haut, c'est ça ?
Plus de 100 mètres, oui.
Ce qui n'a pas trop d'équivalent en Europe ou en France aujourd'hui. Quoi.
Bah, c'est, si vous parlez avec les archéologues qui travaillent, le centre d'études d'Alexandrie, d'abord, ils disent le phare, parce que pour eux, il n'y en a qu'un. C'est, et puis, ce n'est, là aussi, ça, le mot phare, ça veut dire un bâtiment qui va être utile pour le marin, comme disait Obélix, mais c'est aussi un monument à la gloire des souverains des Ptolémées, comme Cordouan peut l'être également. Hein, c'est un monument, et en plus, dans Alexandrie, si j'ai bien compris ce que disent les collègues archéologues, il y a l'idée aussi de totaliser tous les savoirs d'une époque dans un monument. Par la géométrie, par voilà. Donc l'architecte a voulu faire une œuvre totale.
L'Angleterre, c'est aussi une terre de phare. Bon, c'est un petit peu une évidence hein, pour une île. Les Anglais ont toujours été en avance pour éclairer les côtes.
Alors, en tout cas, c'est ce qu'ils nous rappellent en toutes circonstances.
c'est leur fierté.
Ah oui, ils ont fêté en grande pompe les 500 ans de leur service des phares, qui s'appelle Trinity House, donc la maison de la Trinité, qui est une charité qui a eu des privilèges accordés par Henri VIII. Donc c'est 500 ans d'une institution qui avait reçu le privilège de construire et de collecter des fonds, parce que les phares étaient payants en Angleterre.
Donc c'était pas une pardon, je vous interromps, c'était pas une institution publique. C'était un peu des deux, quoi, c'est ça.
Alors, aujourd'hui, on dirait que c'est un partenariat public-privé. C'est un peu, vous savez, comme les péages qui devaient être privés là, qui est sur nos routes là. Oui. C'était, on accordait à une charité, c'est une corporation qui avait ce privilège, ce devoir de construire des phares et dans les endroits dangereux et donc de collecter auprès des bateaux qui arrivaient en Angleterre, comme c'est une île, c'est pratique, de collecter une somme pour les entretenir.
Mais au-delà du chauvinisme, est-ce qu'ils étaient vraiment en avance? Est-ce qu'ils ont commencé à construire des phares avant nous?
Oui, quand même. Non, puis surtout, ça montre qu'avant de construire des phares, il faut avoir une institution, une organisation, une administration. Mmh. Il y a une logique politique. Le phare, ce n'est pas seulement de l'architecture, c'est ça aussi, c'est de l'architecture, c'est de la littérature, mais c'est aussi un projet de territoire. Cordouan, c'est les rois de France qui marquent leur présence. Et c'est le début de la construction du territoire national, de l'idée de frontière, de ces choses-là. C'est certes un merveilleux lieu de détente, et voilà, mais derrière, il y a une histoire politique. Et les Anglais, oui, ont cette continuité depuis 500 ans autour de Trinity House, dont le siège est toujours à Londres et qu'on peut visiter.
Et en France, la Révolution a provoqué une réorganisation du réseau des phares. Qu'est-ce qui a changé?
Comme on était très en retard sur les Anglais, il y avait une centaine de phares dans le monde à l'époque, ce qui n'est pas beaucoup, mais la moitié sont dans les îles britanniques. Donc ça fait, ils avaient bien construit. Je vous recommande d'ailleurs, si vous allez du côté de Plymouth, ils ont déplacé un des premiers phares en mer qui s'appelle Eddystone, pierre par pierre. Il était reconstruit. Et quand on arrive en ferry ou qu'on quitte Plymouth, on voit ce phare d'Eddystone qui est vraiment un phare très, très, très intéressant. Donc on avait beaucoup de retard. Et comme en France, comme d'habitude, quand on a un problème, on crée une commission. Voilà. Et donc on a créé la commission des phares qui existe toujours. Oui. Et cette commission, elle a dit il faut éclairer toutes les côtes de France et de manière presque géométrique. Donc on avait besoin de phares plus hauts, on avait besoin d'appareils plus puissants. C'est ça qui explique aussi Fresnel. Fresnel, il s'est pas mis à Grand Berger dans son coin en se disant on va mettre des lentilles. C'est qu'il avait une commande de faire un appareil plus puissant pour avoir le moins de phares possible pour qu'un bateau quittant les côtes de France, de Dunkerque, puisse longer la côte sans quitter un phare. C'était ça la commande. Ça explique pourquoi on en a autant. Après, on en a construit encore plus. On parlait de l'Iroise, des phares qu'a photographié Jean Guichard. Il y a des endroits dangereux où là, il y a une espèce d'effet d'accumulation. C'est vraiment cette commission, 1811, puis Fresnel sous la Restauration, qui ont lancé cette construction.
Merci beaucoup, Vincent Guilleneau. Je rappelle que vous travaillez pour le musée de la Marine. Bonne idée de balade. Merci beaucoup.
C'est déjà la fin de votre émission préférée. N'ayons pas peur de parler à votre place. On revient demain de 15 à 16 heures.
Oui,
comme tout l'été, avec au programme.
Alors, vous savez, dans cette émission, si vous nous découvrez, peut-être que vous venez de vous en rendre compte, le maître mot de la curiosité, c'est l'éclectisme.
Aujourd'hui,
on avait les phares et le sexe féminin. Demain, ce sera l'histoire des kamikazes et puis celle des glaces et des sorbets.
Enfin, il y a certaines glaces, faut être fou pour les manger quand même. Hein.
Ah oui, c'est vrai, il y a des parfums.
Je trouve
de
basilic, des trucs comme ça.
Vous verrez.
Allez, bon après-midi les curieux et à demain. Dans un instant, ce sont vos grosses têtes. RTL.
Vous écoutez RTL.